Bon, alors on va commencer. C'est super, vous êtes nombreux, c'est bien. Donc le débat ce soir, grosso modo, c'est, vous avez lu la petite documentation et l'invitation, c'est un petit peu pour s'interroger si oui, non, il y a des dérives autoritaires dans ce cher État, notre République dite démocratique et représentative. Bon. Et donc j'ai souhaité quand même pour un petit peu développer donc, sur ce sujet et amener le questionnement que nous ayons des interventions de personnes qui travaillent dans des secteurs différents, très souvent complémentaires ou associés. Et donc Fabien Jobard qui est sociologue et qui nous expliquera la teneur de son métier et ses spécifications. Alain Geneste qui vient pour représenter la revue Acrimed. Critique des médias que vous devez connaître, j'espère, et le régional de l'État, l'avocat donc Alain, Laurent Bruno, pardon, voilà, pour le côté justice. Donc je vais les laisser se présenter. On va faire une première partie avec leurs interventions et une seconde donc avec un échange avec vous. J'espère que vous avez des questions, des propositions, des réflexions qui nous amèneront à développer tout ça. Voilà. Donc, moi je vais me taire, si ce n'est que c'est pas la peine de présenter plus le sujet, vous êtes tous quand même au fait voilà, de questionnement. Merci.
Bonsoir, ça ne fonctionne pas. Bonsoir. Alors, merci beaucoup pour cette invitation à venir débattre ce soir. Pardon. Des dérives autoritaires de l'État français. Donc, je suis Fabien Jobard, je suis chercheur au CNRS. Je suis dans un centre qui est le Centre de recherche sociologique sur le droit et les institutions pénales. Donc, je fais en fait de la sociologie du droit pénal, et ce depuis, enfin, du droit pénal et des institutions pénales, ce qu'on appelait dans les années 70 encore les institutions répressives. Et ce depuis donc le milieu des années 90, et j'avais commencé à travailler à l'époque sur la police, et en particulier sur les politiques dites de maintien de l'ordre, c'est-à-dire la gestion des foules, en particulier protestataires, de la part de la police. J'ai travaillé ensuite j'ai travaillé en Allemagne, à Berlin, sur la réunification des polices berlinoises, un thème d'actualité puisque nous avons célébré, ou en tout cas commémoré, les 30 ans de la chute du mur récemment. Puis j'ai travaillé sur des mobilisations de jeunes qui protestaient contre les violences policières, fait de la sociologie pénale sur les discriminations à l'audience. J'avais fait une grosse enquête sur les contrôles d'identité à Paris à l'époque, il y a une dizaine d'années. Je suis ensuite reparti en Allemagne et je suis à présent revenu. Je voulais travailler sur la justice, je voulais quitter les questions policières. Et puis l'actualité m'a quand même un petit peu ramené gentiment aux questions policières. Et donc l'actualité, ça a été la loi travail. On avait fait un article en 2016 au moment de la loi travail pour simplement expliquer... aux responsables de la police française que ailleurs en matière de gestion des manifestations ça se passait autrement et ça se passait pas forcément plus mal qu'en France. Et puis le défenseur des droits il y a un an nous a confié le soin de produire une recherche sur le maintien de l'ordre en France, ce à quoi nous nous sommes attelés. Alors, si vous le voulez bien, comme il me revient l'honneur de tenir une sorte de propos introductif à cette séance, et je voudrais ne pas parler longtemps parce qu'en effet, vous êtes nombreux, et donc si beaucoup veulent questionner, se manifester, je pense qu'il faut qu'on parle moins que 20 minutes chacun. Donc je vais parler très rapidement en faisant un tout petit point d'histoire d'abord sur la police en France. Comme vous le savez, il y a deux institutions policières en France, la police nationale et la gendarmerie nationale. Ces deux institutions sont caractérisées par un très fort degré de centralisation. Et s'il y a bien un trait qui caractérise la police, le système policier, les polices en Europe, les polices françaises en Europe, dans le contexte européen, c'est leur extrême degré de centralisation. On dit que la centralisation policière, le fait que la police nationale relève de l'État, eh bien, c'est une tradition républicaine. Alors, c'est tout à fait surprenant, parce que quand on examine les lois qui fondent la République, ce sont généralement les lois de la mise en place de la Troisième République, donc passé la période de l'ordre moral, c'est les années 1880, et vous avez une grande loi qui fonde les pouvoirs du maire, loi sur l'organisation des municipalités, qui précise que le maire est responsable dans sa commune du bon ordre, de la tranquillité et de la salubrité publique. Autrement dit, le maire est responsable, endosse les compétences policières. Vous avez une autre loi, celle de décembre 1789. Donc s'il y a une loi républicaine, c'est bien en décembre 1789 qu'il faut la trouver, et non pas en avril 1940. Eh bien, cette loi, en décembre 1789, précise que la force publique relève de la municipalité. Alors certes, à l'époque, les conseils municipaux, les maires n'étaient pas élus, mais désignés par le... Ils seront désignés par le pouvoir central. Mais on voit bien que la police est une matière municipale. C'est une matière municipale parce que c'est une institution qui gère, règle ou aspire à gérer la vie quotidienne des gens dans leur espace de vie. La première expression de la police, c'est savoir qui va et vient dans la ville et gérer la police du marché, par exemple, la police des denrées, la police des prix. Et la France a ceci de très particulier que, en dépit de ces textes-là, qui relèvent des lois fondamentales de la République, par un effort tout particulier de propagande, on en est venu à croire que la police, sa forme républicaine, c'est la forme centralisée qu'on connaît. Or, cette forme centralisée date d'un texte adopté sous Vichy, qui crée ce qui deviendra ensuite la police nationale, c'est-à-dire une seule et même organisation policière sous l'égide du ce qui sera ensuite le ministère de l'Intérieur, sous l'égide donc gouvernementale, avec ses déclinaisons dans les départements, sous l'autorité du représentant du gouvernement qu'est le préfet dans les départements. Et ça, c'est le produit d'une mobilisation. C'est pas venu comme ça parce que je sais pas qui, dans le gouvernement de Vichy, se disait que c'était mieux. C'est la mobilisation intense d'un groupe d'intérêt, d'un groupe de pression, le syndicat des commissaires de police, qui tous lorgnaient vers un modèle particulier de police, cette espèce d'îlot policier dans l'organisation française qui est la préfecture de police à Paris. Préfecture de police, très forte autonomie de l'autorité policière, statut très particulier du préfet de police, et la police n'a de compte à rendre à aucune autre institution que elle-même. Alors ça, c'est le rêve absolu, évidemment, du commissaire de police, qui partout ailleurs, à Agen comme à Toulouse, alors pas à Marseille, pas à Lyon, pas à Mâcon, dans certains centres industriels, la police avait été déjà étatisée là-bas, mais il travaille sous la double autorité du préfet et du maire, en plus il y a le procureur par là-dessus, et donc c'est compliqué. Le commissaire de police se veut être le second du préfet, et obtient de Vichy la centralisation de la police nationale. Et les lois issues du Conseil national de la Résistance, issues du retour au régime républicain à partir de 1944-45, ne sont pas revenues là-dessus. Ça donne un indice de ce qu'il faut entendre par dérive autoritaire. Parce que lorsque vous regardez la police française depuis, par exemple, l'Allemagne, qui est un pays pas moins démocratique que la France, j'ai même tendance à penser qu'il est un chouïa plus démocratique que la France, lorsque vous regardez la police depuis l'Allemagne, la police française, vous vous interrogez sur ce degré de centralisation, militarisation, j'y reviendrai, opacité du système policier lorsque, en Allemagne, les polices, il y a autant de polices qu'il y a de Länder, et donc il y a 16 polices en Allemagne, et les maires des grandes agglomérations déterminent avec les chefs de police de ces agglomérations la politique policière, la politique de police. Et donc c'est une police qui est beaucoup plus responsable devant la population, parce que c'est une police qui doit rendre des comptes, certes, au ministre du Land, mais aussi aux maires, aux autorités politiques locales. Et une diversité des autorités qui pèsent sur la police fait qu'on évite ce renfermement de l'institution sur elle-même. Regardez, en Angleterre, il y a 43 forces de police en Angleterre, avec une police un peu, quand même un peu particulière, qui est la police de Londres, avec une police très, 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 très lourde, très grande, assez centralisée. Mais c'est pareil, on sait à peu près ce que fait telle autorité de police sur le territoire, on sait à qui elle rend des comptes, d'autant plus que vous avez là-bas, en Angleterre, une autorité de contrôle des éventuelles fautes de police, qui est une autorité indépendante, pas comme l'IGPN, qui est le Independent IPCC, j'ai oublié le CC, parce que ça a changé récemment. En tout cas, c'est une instance indépendante de contrôle des gestes policiers. Donc, vous avez une responsabilité des chefs de police, qui est une responsabilité au plus près de la vie des gens, au plus près des autorités politiques qui rendent des comptes. Ici, vous avez une police qui est sous l'autorité des préfets, qui rendent de comptes à quasi personne, si ce n'est une organisation administrative située au ministère de l'Intérieur. Et vous avez une distance très forte entre population d'un côté, autorité politique élue de l'autre, et police pour finir. À ça, il faut ajouter le fait que la police française, dans les années 60, à partir évidemment de l'expérience parisienne, a connu une vague de militarisation très forte, liée au déplacement des conflits de la guerre d'Algérie sur le territoire métropolitain. La police parisienne, bien entendu sous l'influence de préfets qui avaient d'abord exercé dans les territoires nord-africains, le préfet Baylot et le préfet Papon, ont considérablement renforcé la militarisation de la police. Alors, militarisation de la police, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le premier souci de la police, c'est la protection des intérêts de la puissance publique, des intérêts de l'État, et le souci de la réponse aux demandes du public est toujours second. Ça, c'est fondamental. Militarisation également, au sens où on rend toujours compte à l'échelle supérieure, mais on ne rend jamais compte à des autorités ou des interlocuteurs extérieurs à sa propre institution. Militarisation dans le sens, enfin, où l'opacité et le secret sont des vertus, alors que dans un certain nombre de systèmes démocratiques, et c'est ce qui définit d'ailleurs souvent une démocratie, c'est la transparence qui est considérée comme une qualité vertueuse. Et ces traits de militarisation ont été renforcés par vague. La guerre d'Algérie a joué un rôle, la guerre d'Algérie en France en tout cas, a joué un rôle très fort. Un autre moment de militarisation de la police, c'est celui qui nous concerne aujourd'hui, et qui est le moment post-émeute de banlieue. Comme vous le savez, en 2005, on a eu, j'ai plus le chiffre exact en tête, mais à peu près 300 communes qui ont été touchées par des phénomènes émeutiers, c'est-à-dire des révoltes de plus ou moins grande ampleur, essentiellement d'ailleurs tournées contre la police. l'objet de la révolte étant la police. Et en octobre-novembre, ces émeutes ont duré 3 semaines, à peu près du 27 octobre au 15 novembre 2005. Ça a été un événement très très fort pour les chefs de police, pour les directeurs de police et directeurs départementaux. Les préfets, mais les préfets ne font pas que de la police, en revanche les directeurs départementaux de police ne font que de la police. Ça a été un choc parce que dans beaucoup de communes, ils étaient au bord de la rupture. Et toute la période novembre-décembre 2005, janvier-février-mars 2006 a été une période durant laquelle les syndicats policiers sont montés au créneau pour obtenir des moyens d'assurer leur propre protection. Et les moyens d'assurer leur propre protection, donc on a eu une multiplication des jambières, coudières, épaules, casques à visière balistique et tout ce que vous voulez, bon. Mais vous avez eu aussi des moyens offensifs, et notamment diffusion plus résolue de, à l'époque, lanceurs de ballons en caoutchouc, qui étaient à l'époque des flashballs de fabrication française. Décidé d'emblée par le ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, au cours d'une cérémonie de Noël, une fête de Noël d'un syndicat de police. Ce que je vous disais de la militarisation s'est vu renforcé par le fait que les unités de police intervenant dans les banlieues des grandes agglomérations françaises ont de plus en plus été formées dans le souci premier de se protéger elles. C'est-à-dire qu'on a une police dans tout un ensemble de territoires dont la première mission est d'assurer sa propre protection. Et ça a été institué, d'une certaine manière, par notamment l'introduction de bribes de grande réforme de police, que évidemment tout le monde a oublié depuis, mais les brigades de sûreté du territoire, les BST, étaient des toutes petites formations de type maintien de l'ordre, c'est-à-dire des policiers que vous pouvez très mal distinguer de CRS ou de gendarmes mobiles, qui viennent alors toujours en appui, en soutien, un vocabulaire également militaire où vous avez des forces mobiles et puis des forces en soutien, donc en appui, en soutien aux policiers locaux. Et ces policiers locaux, la situation budgétaire de la France étant telle que vous ne pouvez pas les multiplier. Donc en fait, ce que vous avez, c'est que dans les commissariats de banlieue, où la densité policière en plus est plus faible que dans les centres-villes, on vide les commissariats des effectifs de police classique, de police urbaine classique, de ce qu'on appelle police secours, le 17, pour former de plus en plus de petites unités de type maintien de l'ordre. Ça prend des allures, l'allure est toujours plus ou moins la même, mais le nom change. Alors BST, Compagnie de sécurisation 2003, Compagnie départementale d'intervention, etc. etc. La police est conçue là-bas comme, avant tout, un ensemble d'unités aptes à rétablir l'ordre lorsqu'il y a du désordre. Et ça, c'est le premier impératif. L'impératif cardinal des unités de police, de la conception que l'on a de la police en banlieue. Et ce que vous avez vu avec le mouvement Gilets jaunes, et je conclurai mon bref propos là-dessus, c'est que, à nouveau, on a vu dans la gestion des protestations, d'abord loi travail, puis plus encore Gilets jaunes, parce que justement cette protestation avait, parmi ses caractéristiques, le fait qu'elle était répétée et qu'elle était à l'œuvre sur une grande partie du territoire, eh bien vous avez eu une forme de police destinée à la gestion de ces manifestations-là, de ces protestations-là, qui est la forme de police qui s'est instituée dans les banlieues parisiennes. Petits groupes en formation, en petits groupes en tenue maintien de l'ordre, appelés à gérer d'emblée des désordres, avec une réduction de la part du maintien de l'ordre et une croissance de ce qu'on appelle en langage policier le rétablissement de l'ordre. Le moindre désordre appelle un rétablissement de l'ordre. Et là, on envoie ces unités-là, qu'on a ramenées des périphéries pour rejoindre le centre-ville, avec ce qui, ça, est historiquement quelque chose d'assez... qui rappelle d'une certaine manière ce qu'on avait vu à la préfecture de police, c'est-à-dire ce qu'on avait des formes de police à l'œuvre en Afrique du Nord, on les a employées sur le territoire de la préfecture de police. Et là, on voit que des formes de police qu'on emploie à la périphérie des villes, on les a employées dans les centres-villes, avec des armements qui sont ceux de la périphérie des villes, évidemment... notamment par un suremploi des lanceurs de balles de défense, et une conception de la manifestation politique, c'est-à-dire du droit d'exercer une liberté fondamentale, même si elle est moins constitutionnellement protégée qu'elle peut l'être en Allemagne, par exemple, une conception qui est secondaire par rapport à l'impératif de rétablissement de l'ordre. Et donc, en fait, quand on examine l'organisation de la police et ses modes d'action, on se rend compte que s'il y a dérive autoritaire, en fait, elle s'inscrit dans une histoire d'assez longue durée, cette dérive autoritaire, si bien que on peut parler de moments autoritaires ou de moments de militarisation ou de moments de durcissement de l'institution policière, mais qui s'inscrit dans un arrière-plan résolument caractérisé par la centralisation, l'opacité et la militarisation, surtout lorsque l'on prend pour échelle d'observation l'Europe de l'Ouest. Si évidemment on prend les États du Sud, les petites villes ou villes moyennes des États du Sud des États-Unis, bon, on peut se dire que la police française n'est pas si opaque et centralisée que ça. Mais si on prend l'Europe de l'Ouest, qui est notre cadre de référence, par exemple, la politique monétaire en France, elle est à peu près déterminée par ce que font les Allemands, donc on pourrait très bien se dire, bah, tiens, on va regarder ce qu'ils font en matière de police. Eh bien, c'est l'histoire de l'institution policière en France qui est caractérisée par ces propriétés-là, avec des moments plus ou moins intenses de manifestations autoritaires. Voilà ce que je pouvais dire en propos introductif à la discussion.
D'abord, je remercie les organisateurs de nous avoir invités. Alors, quand je dis nous, je suis représentant ici d'une association qui s'appelle Acrimed. Donc, cette invitation pour nous nous fait plaisir, évidemment, puisque ça veut dire qu'il y a une reconnaissance du travail effectué. Alors, tout le monde ne connaît probablement pas Acrimed, donc je vais commencer par présenter cette association très rapidement. Donc, d'abord, c'est une association de critique radicale et intransigeante des médias. Des médias qui sont soumises à l'emprise des pouvoirs politiques et des pouvoirs économiques. Cette association naît au lendemain des grèves de 1995 contre les réformes, ou les contre-réformes, ou les reculs sur la sécurité sociale et les retraites de Juppé. Donc je disais en 1995, et en 1995, comme on a pu le voir ensuite en 2005, ou comme on a pu le voir plus récemment, donc les médias ont intégralement ou quasi intégralement pris parti pour les réformes et contre le mouvement social. À l'époque, un certain nombre de gens, dont Pierre Bourdieu, dont Serge Halimi, dont Henri Mahler, dont quelques autres, ont pris l'initiative de la création d'un observatoire des médias, qui était destiné à faire l'inventaire, justement, des partis pris systématiques, pro-réforme, de ces médias. Quand je parle des médias, bien évidemment, je parle des médias dominants, c'est-à-dire des médias qui sont, évidemment, dépendants des intérêts économiques et politiques des puissants. Cette association est une association radicale qui traite essentiellement de la forme. Donc notre critique n'est pas une critique de fond. Il ne s'agit pas pour nous de rétablir la vérité, de dire « ils ont dit bleu, mais la vérité c'est blanc ». Notre critique est une critique de la façon dont les médias sont organisés pour produire ce qu'elles produisent. C'est-à-dire que ce n'est pas par hasard si leur parti pris est le parti pris que tout le monde peut constater et que je viens de décrire. En fait, c'est parce que ce sont des entreprises, donc elles sont soumises à des lois de l'argent, elles sont soumises à des lois de rentabilité, elles ont un personnel qui est formé d'une certaine façon et elles font de l'information une marchandise, alors que ça devrait être un bien public. Donc une critique de forme, beaucoup plus qu'une critique de fond. Cette critique, nous l'exprimons à travers un site, qui est le site Acrimed, Action Critique Média, acrimed.org, à travers un magazine, Média Critique, qui est trimestriel, parce qu'on part du principe qu'on ne lit pas de la même façon sur écran et sur papier, et qu'il faut monter sur papier un certain nombre d'articles qui nous apparaissent très importants. Nos modes d'expression, c'est aussi ce genre de réunion auquel on est invité. On a plaisir à participer dans la mesure de nos moyens, bien sûr. C'est aussi un film que peut-être un certain nombre de gens ont vu, Les Nouveaux Chiens de Garde, donc il y a 8 ans, qui montrait, donc de façon particulièrement percutante, que ces médias dominants ne sont ni indépendants, ni pluriels, bien sûr. Ils donnent rarement la parole aux autres ou dans des conditions telles que ça devient inaudible ou caricatural, et non objectif. J'ai pas été invité ici pour vous parler d'Acrimed, donc j'ai fait une présentation rapide en pensant qu'il y a un certain nombre de gens qui ne connaissaient pas. Donc j'ai été invité, comme mes camarades là, pour parler du traitement médiatique des violences policières. Alors, traitement médiatique des violences policières, en particulier à l'occasion du mouvement des Gilets jaunes, mais comme Fabien vient de le rappeler, évidemment, ces violences policières, elles n'ont pas lieu, ou elles n'ont pas eu lieu qu'à l'occasion du mouvement des Gilets jaunes. Il existe plein d'exemples ailleurs, les banlieues en particulier, qui ont pu étrenner, en quelque sorte, ces pratiques aujourd'hui particulièrement dures, particulièrement violentes, mais aussi des événements connus dans le coin, comme Sivens, la loi travail... Les Adama Traoré, etc., etc. Il y a un outil explicatif qui permet de comprendre, d'après nous, un certain nombre de choses sur le fonctionnement de ces médias dominants, leur parti pris systématique et leur participation à la fabrique du consentement, en quelque sorte. C'est celui de journalisme de préfecture. Alors, qu'est-ce que c'est que le journalisme de préfecture ? C'est un journalisme de maintien de l'ordre. C'est-à-dire que c'est un ensemble de pratiques professionnelles des journalistes qui leur fait accepter et reproduire sans recul les communiqués officiels des institutions, préfecture, par exemple, pouvoir, parquet, justice, à l'occasion des opérations de maintien de l'ordre. Alors, je vais construire mon exposé de la façon suivante. Donc, justement, je vais montrer, à travers un exemple récent, tout petit exemple, justement, comment fonctionne ce journalisme de préfecture. Et puis ensuite, j'essaierai de vous montrer comment le journalisme de préfecture permet aussi d'expliquer le traitement médiatique des violences policières. Traitement médiatique qui s'est opéré, en gros, en 3 temps. Dans un premier temps, omerta absolue. Les médias dominants, qu'ils soient régionaux ou nationaux, n'ont pas parlé, ou pratiquement pas parlé, des violences policières, jusqu'à en gros, pendant 8 semaines, jusqu'à en gros le 10-15 janvier 2019. Ensuite, ils en ont parlé, essentiellement à travers l'invitation de David Dufresne, un journaliste indépendant, et puis un mois et demi plus tard, début mars, on a bien vu les limites de ce traitement médiatique, de cette, entre guillemets, dénonciation médiatique des violences policières. Donc je montrerai ça tout à l'heure. Alors mon premier exemple, qui permet de montrer en dehors des gilets jaunes comment fonctionne ce journalisme de préfecture, donc c'est celui, ça s'est passé le 6 octobre, et c'est donc un jeune de 22 ans, Ibrahim Ba, qui est mort à Villiers-le-Bel, en banlieue parisienne. Il est mort alors qu'il conduisait à moto. Le lendemain, France Bleu donc publie un article en donnant toute la place à la version de la préfecture du Val-d'Oise, selon laquelle les policiers effectuaient dans la zone un contrôle routier, ont fait signe à Ibrahima de ralentir sa moto, mais selon eux, et le communiqué donc de la préfecture, le jeune homme n'aurait pas ralenti, il aurait même réaccéléré, malheureusement dévié sur le trottoir, heurté un poteau métallique et serait mort. France Bleu met en ligne directement le communiqué de la préfecture et rajoute même que les enquêteurs ont déjà découvert que la moto avait signalé volée, qui est la reprise d'une phrase d'un communiqué de la préfecture qui n'a aucune valeur informative, mais qui sert simplement à discréditer le jeune homme. Je vous lis maintenant le chapeau d'un article que l'Obs, le journal L'Obs, donc a fait sur cette affaire 4 jours plus tard. Contrairement à la version officielle donnée le soir même du drame, le jeune homme de 22 ans était bien propriétaire de la moto qu'il conduisait. D'après la déposition d'un automobiliste ayant assisté à la scène, un fourgon de police lui aurait barré la route, entraînant la collision mortelle. Dans le cas de France Bleu, là, évidemment, on a un cas typique de journalisme de préfecture. À ce jour, aucun rectificatif des journalistes. Alors, la question qui se pose, bien sûr, c'est de savoir pourquoi. Pourquoi ce journalisme de préfecture ? Pourquoi France Bleu et d'autres médias donc relatent l'événement, et ce n'est pas le premier, évidemment, de cette façon-là ? Alors évidemment, on pourrait dire que les journalistes sont du côté du pouvoir. Mais quand on dit que les journalistes sont du côté du pouvoir, on dit quelque chose, mais on ne dit pas grand-chose en même temps. Alors, on a inventorié, nous, trois grandes explications, justement, à ce journalisme de préfecture. La première, c'est la pression du temps et le manque de moyens pour enquêter. La presse est une entreprise. À ce titre-là, elle est soumise à des calculs de coûts et de recettes, donc de rentabilité. Elle embauche de plus en plus de précaires. Sur 36 000 journalistes aujourd'hui, en fait titulaires d'une carte de journaliste, il y a à peu près 25 000 titulaires et il y a 9 à 10 000 précaires dont la part est de plus en plus importante. À côté de ces précaires, donc sous des formes de CDD, sous des formes de pigistes, mais aussi sous des formes d'auto-entrepreneurs, sous des formes de rémunération en droit d'auteur, des formes diverses, on en invente presque tous les jours. Donc c'est la pression du temps et le manque de moyens pour enquêter. On ne va même pas sur le terrain. François Ruffin a montré dans un bouquin qui s'appelle « Les petits soldats du journalisme », j'ai vérifié la semaine dernière, c'est toujours vrai, qu'une des deux plus grandes écoles de journalisme donc n'a même pas de bibliothèque. Pas la peine d'avoir une bibliothèque, coco, tu regardes sur Internet, ça te prend 2 secondes, et puis voilà, tu sais ce que c'est que l'Afghanistan si tu dois y aller. Donc on ne va même pas sur le terrain, on se contente d'un coup de fil au commissariat, où on pioche directement le communiqué de la préfecture sur les réseaux sociaux. Et voilà, ça y est, le tableau est terminé, l'article est prêt. On n'envoie personne pour enquêter, on reprend un article, ça ne coûte pas cher. Évidemment, on ne va pas, quand je dis on ne va pas faire d'enquête, c'est-à-dire qu'on ne va pas non plus aller chercher la parole des éventuels témoins. Deuxième chose, quand bien même les journalistes ont le temps, eh bien, il y a une croyance quasi généralisée dans ce milieu des journalistes, a priori dans les institutions. En gros, la version officielle est la version légitime, la version légitime et la version vraie. Dans le Dauphiné libéré, donc l'année dernière, le 2 mars, à l'issue d'une course-poursuite avec les forces de l'ordre, le journaliste du Dauphiné libéré ne mentionne pas l'implication de la police. Il déclare « Ce que pensent les gens ne m'intéresse pas sur le plan factuel. Les seuls éléments concrets me sont apportés par le procureur. » C'est-à-dire que pour eux, évidemment, le procureur, par exemple, la police, n'est pas vu comme des gens qui ont un parti pris, qui ont un intérêt dans l'affaire. Pascal Pro, donc une émission de BFM, déclare récemment « Je crois spontanément la police. J'ai confiance en elle. Je n'ai pas de raison de mettre sa parole en doute. » Donc première chose, je disais, la pression du temps, le manque de moyens. Deuxième chose, même quand on a du temps, eh bien, les journalistes ont tendance à croire a priori dans les institutions. Et la troisième chose, effectivement très importante, c'est la dépendance des journalistes vis-à-vis de leurs sources policières. Souvent un travail qui est monosource. Les journalistes, le côtoiement, la familiarité, pour certains, pas pour tous, ça ne va pas toujours jusqu'à la familiarité, avec les sources policières est une occasion de carrière, est une occasion sans limite de faits divers, de petites informations qui donneront l'occasion, une occasion illimitée à des articles. France 2, par exemple, envoie un certain nombre de ses journalistes, notamment les correspondants justice-police, les hauts gradés de la profession, à l'Institut des hautes études de la sécurité intérieure. Donc il y a quelques journalistes, très peu nombreux, et puis il y a beaucoup de gradés de la police. Ça dure une petite année. C'est l'occasion, évidemment, de prendre des contacts, de nouer des liens, et de se faire, consciemment ou inconsciemment, ensuite le porte-parole de ses intérêts. Donc pourquoi, effectivement, trois choses ? Donc la pression du temps, le manque de moyens, la croyance dans les institutions, et puis la proximité avec les sources policières, en gros un travail de monosource. Alors maintenant, si on voit donc comment effectivement ça se passe, comment ce concept, cette idée de journaliste de préfecture nous permet d'expliquer, de comprendre le mouvement des Gilets jaunes. Alors, premier temps, effectivement, à l'occasion des Gilets jaunes, donc qui démarre le 17 novembre 2018, donc en gros jusqu'à mi-janvier, le 10 janvier à peu près, 10-15 janvier, les médias ne parlent pas des violences policières. Les médias, quand je parle des médias, encore une fois, les médias dominants de la presse quotidienne régionale ou de la presse nationale. Je ne parle pas des médias indépendants, évidemment, je ne parle que de ces médias-là. Donc on n'en parle pas. Ni Le Parisien, ni Le Monde n'en parlent. Libération est le seul journal qui en parle un tout petit peu, et encore essentiellement à travers des papiers qui sont faits par sa rubrique Check News, qui vont tester la véracité des reportages vidéo qui circulent sur les violences policières, sur les réseaux sociaux. Donc, premier temps, effectivement, on n'en parle pas. Alors, on n'en parle pas, ben, évidemment, pourquoi ? Parce qu'on a cette proximité des médias, et en particulier des hauts gradés de la profession, des chefferies éditoriales, qui se vivent et se conçoivent comme des gardiens de l'ordre. Donc, proximité avec les intérêts de la police. Ce sont des gens qui ont de très hauts salaires, ce sont des gens qui, par leur position sociale, donc sont en relation constante avec les élites politiques et avec les élites économiques, allant un certain nombre de fois jusqu'à se marier entre eux. Ce sont des gens qui ont une convergence de vie. Ce petit monde oligarchique a une convergence de vue. Des gens qui ont de très hauts salaires. Donc Ludivine Bantini montre que donc les dirigeants connus, donc c'est Rutel Krief et Bruno Toussaint, enfin ceux qu'on voit, hein, il y en a d'autres, mais ceux qu'on voit, donc de BFM. Donc Rutel Krief, c'est un salaire de 60 000 euros par mois, et Bruno Toussaint de 50 000. Donc évidemment, on comprend qu'avec ce niveau de rémunération et de position sociale, bon, ben, leur intérêt soit le maintien de ce système qui leur permet justement ces avantages. Donc ils sont particulièrement enclins à défendre l'ordre qui les a mis là, bien évidemment. Donc on a en quelque sorte une logique dans les médias dominants d'un partage, hein, tous médias confondus, de cette logique du maintien de l'ordre. Deuxième temps. Alors évidemment, ceci a une fin. La fin, c'est des raisons particulières et puis un événement fondateur en quelque sorte. Donc en gros, entre le 6 et le 15 janvier, donc on se met, ces médias dominants se mettent à parler des violences policières. Alors ils vont en parler à leur façon, mais ils se mettent à en parler. Alors ils en parlent d'une façon particulière, bien évidemment. D'abord en invitant très souvent David Dufresne. Donc David Dufresne, c'est un journaliste indépendant qui a monté, qui a un blog sur Mediapart et qui a monté une série d'actions autour de son slogan, enfin pas de son slogan, mais de son interpellation. Donc « Allô, place Beauvau, c'est pour un signalement ». Effectivement, mettant directement en cause, donc lui, plutôt que de violence policière, il parle de violence d'État, parce qu'effectivement, les policiers sont armés, mais qui les arme, qui les nomme, qui leur donne les ordres, etc., etc. Donc il est systématiquement invité pendant à peu près un mois. Donc il va passer plusieurs fois, où il va être interviewé jusqu'à plusieurs fois dans ces médias dominants. Alors d'abord, c'est quand même particulier parce qu'on peut se demander pourquoi le fait d'inviter systématiquement David Dufresne, qui a eu un agenda médiatique particulièrement chargé, c'est révélateur de l'absence totale de travail des médias dominants sur cette question. Quand on voit la pléthore de journalistes qui assurent les services presse, justice, police, évidemment, on s'étonne qu'il n'y ait aucun travail. Mais on a cherché à expliquer tout à l'heure pourquoi, justement, il n'y avait pas ce travail. Donc, ils demandent à David Dufresne de venir témoigner. Et effectivement, pendant un certain temps, ils vont parler de violences policières. Mais comment en parlent-ils ? Ils en parlent aussi de façon particulière. C'est-à-dire qu'ils vont très souvent euphémiser ces violences policières en utilisant une série de vocabulaire. Alors, je dois en avoir quelque part. Alors, oui, j'ai oublié une chose, juste, je reviens. L'événement, je disais tout à l'heure, l'événement, en quelque sorte, l'étincelle qui fait que les médias parlent. Alors, les raisons de fond, c'est qu'il y a des pressions externes et des pressions internes. Alors, les pressions externes, bon, je l'ai dit tout à l'heure, ce sont les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, les vidéos, les prises de parole sont importantes sur la question des violences policières. Les raisons internes, ce sont les journalistes de terrain qui ont été confrontés à ces violences policières et qui, en interne, effectivement, à l'occasion des conférences de rédaction, par exemple, vont demander des protections, vont protester, justement, contre ces violences policières, dont ils sont aussi, pour un certain nombre d'entre eux, en tout cas, les victimes. Des cartes mémoire qui sont arrachées, du matériel qui est brisé, des menaces de LBD à quelques mètres de distance, une main cassée d'un journaliste qui maniait son appareil photo, Olivier Béziade, je crois, de façon un peu trop intempestive de la part des policiers qui étaient devant lui. Donc on a cette pression. Et puis l'élément déclencheur, l'étincelle en quelque sorte, c'est le 6 janvier, l'histoire des deux boxeurs. Donc on a eu le boxeur d'Étinger, donc c'est passé en boucle, effectivement, où on voit un boxeur sur un pont, sur le pont des Arts à Paris, qui boxe un gendarme mobile. Un gendarme, hein, ouais. Et puis, il y a un autre boxeur le même jour, à l'autre bout de la France, donc à Toulon, donc le commandant Andrieux, que les médias dominants ne montrent pas, mais que les réseaux sociaux montrent abondamment, qui frappe un manifestant qui est arrêté et menotté, et qui le frappe abondamment. Les médias dominants sont pris en tenaille, en quelque sorte, entre la pression interne, qui exige qu'on révèle un certain nombre de choses, la pression extérieure, parce qu'ils sont en concurrence aujourd'hui avec les réseaux sociaux qui révèlent plein de choses, et puis il y a cet événement qui passe énormément de fois du boxeur Détingé sur les médias dominants et puis du commandant Andrieux sur les réseaux sociaux. Donc il n'est plus possible de se taire. Ils en parlent, mais ils en parlent à leur façon, avec le vocabulaire. Je disais tout à l'heure, de façon euphémisée. De la housse, sur la 2, dit ce que les gilets jaunes appellent violence policière. Un commandant aurait. Donc l'utilisation du conditionnel. C'était en marge des manifestants, en marge des manifestations. Donc une série d'euphémisations qui mettent à distance, en quelque sorte, ces violences policières. Alors, un certain nombre d'exemples, donc pris indifféremment. Alors, d'abord, dans la presse locale ou nationale, les pratiques policières, elles sont présentées de façon récurrente à chaque fois comme des réponses, des ripostes. C'est jamais que agresse, hein, ils ripostent... Comment ? Oui, pardon. Donc, systématiquement présentées comme des réponses, des ripostes. Sauf exception, les forces de l'ordre ne sauraient intervenir qu'en réaction à une menace antérieure ou une provocation. Autrement dit, c'est les autres, évidemment les manifestants, qui ont commencé. Ainsi, les CRS se contentent le plus souvent de répliquer, je cite, « Des manifestants font le pressing près de l'ancien Gaumont. Les CRS répliquent une fois encore. » Je recite, « Des bouteilles de verre sont lancées en pleine place de la République au milieu des passants. Les CRS répliquent, rue d'Orléans. » Alors quand les CRS répliquent pas, ils répondent. Au jet de pierre et de fumigène, les CRS ont répondu par des tirs de flashball devant des badauds médusés par le spectacle. En réponse, les forces de l'ordre ont chargé le cortège. Quand ils répliquent pas, quand ils répondent pas, ils ripostent. Environ 300 manifestants ont défié la police, qui a dû riposter avec des bombes lacrymogènes. Au jet de pierre, celles-ci ont riposté en faisant usage de gaz lacrymogène et d'un lanceur de balles. Les violences policières, évidemment, sont des incidents difficiles à éviter. Elles sont systématiquement présentées, même lorsque les médias dominants se mettent à accepter l'idée de violences policières, elles sont systématiquement représentées comme des accidents, comme des bavures, comme des dérives individuelles, et jamais comme répondant à une logique structurelle. Les manifestants victimes de violences ne sauraient trop se plaindre des désagréments subis. D'ailleurs, pour être sûr qu'ils ne vont pas s'en plaindre, on ne leur donne généralement pas la parole. Désagréments dont on s'abstiendra d'interroger trop précisément les causes. Autrement dit, n'exagérons rien, et puis de toute façon, on ne pouvait pas faire autrement. Commençons par l'euphémisme préféré des commentateurs. Alors je cite, « La polémique enfle après l'intervention musclée des forces de l'ordre » près de la rocade de la ville de Rennes jeudi. Certes, les manifestants sont parfois incommodés ou très légèrement blessés par un tel déploiement de muscles. Je cite, « De très nombreuses personnes étaient incommodées par les gaz, le cortège étant composé en grande majorité de salariés, de familles avec enfants, de retraités. » Je cite encore, « Une lycéenne a été très légèrement blessée par un éclat de grenade lacrymogène. » etc., etc. Donc, en quelque sorte, on occulte là-dedans donc la violence des forces de l'ordre. Elle est occultée, elle est minorée, elle est euphémisée. Et en dernière analyse, elle est systématiquement présentée comme légitime, surtout que généralement, son traitement vient après une semaine de traitement dans lequel on annonce que samedi prochain, ça va être le chaos, et qu'il faut, bien évidemment, parce que le traitement des violences, c'est pas les violences qui gênent, ce sont les violences policières. Parce que les violences des manifestants, elles sont systématiquement couvertes, amplifiées, hystérisées, etc., etc., les casseurs, etc., etc. Et puis, voilà, donc on a, pas de traitement, un traitement, mais un traitement euphémisé qui revient à dire, d'une certaine façon, qu'il se passe rien, ou que c'est exceptionnel, et en dernière analyse, que c'est légitime. Alors, quand on interroge les productions de ceux qui justifient la presse, c'est-à-dire des hauts gradés, d'un certain nombre de journalistes, eh bien, ils se présentent comme le quatrième pouvoir, c'est-à-dire ceux qui sont en charge, en quelque sorte, d'encadrer et de nous révéler les éventuels abus, hein, c'est l'outil de la démocratie, Donc le quatrième pouvoir, qui est un contre-pouvoir. Les abus des dominants, les abus de ceux qui ont le pouvoir. Et puis qu'est-ce qu'on voit ? Ben, évidemment que ceux qui ont le pouvoir dans les médias dominants ne sont pas un contre-pouvoir. Ils sont au service du pouvoir. Voilà.